Culture. Radio de la paix.
Bonjour à tous. À l'espace culture aujourd'hui, je reçois monsieur Traoré Moussa. Il est l'auteur de la biographie Général Abdoulaye Koulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Doufouette Boigné. Avec lui, nous allons parler de son ouvrage biographique et nous allons comprendre les tenants et les aboutissants de cette œuvre qu'il vient de paraître. Traoré Moussa, bonjour.
Bonjour, chers confrères.
Alors, vous avez décidé d'écrire sur le général Abdoulaye Koulibaly. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur cet homme ?
Il faut dire que le général Koulibaly, je le pratique depuis l'année 2000. Et après trois années, vers les années 2003-2004, je me suis rendu compte que le monsieur était une source de sagesse, une mine d'informations. Et même, je pourrais même dire, un baobab à l'ombre duquel on pouvait se reposer. Et donc, quand j'ai vu qu'il était un homme multidimensionnel, j'ai demandé qu'on fasse un ouvrage. Il m'a demandé de le trouver à Paris. Je suis allé le trouver là-bas. Et donc, j'ai préparé 200 questions. Quand il a parcouru le questionnaire, il dit non, il n'est pas question qu'il réponde à toutes ces questions. Mais il m'a demandé moi-même de voir si je pouvais écrire, décrire. Et donc, depuis l'année 2003, lorsque nous nous voyons au sport, au restaurant, à la plage, partout où nous allons, parce qu'il faut dire qu'il m'a intégré dans sa famille, pratiquement. Chaque fois qu'il me lâche une confidence, quand j'arrive chez moi à la maison, j'écris en 10 lignes, je m'envoie par mail. Ainsi de suite, donc jusqu'à l'année 2020, lorsque j'ai ouvert le fichier, je me suis rendu compte qu'il y avait suffisamment d'informations pour me permettre de mettre sur le marché une œuvre. Et donc, j'ai fini d'écrire, je lui ai apporté le manuscrit, il a refusé de lire, il m'a demandé de donner à son épouse pour qu'elle fasse le droit de censure. Elle a enlevé au moins 10 chapitres croustillants, je la comprends. Et donc, le peu qui est ressorti, ça fait les 200 pages. J'ai donné encore au général Koulibaly, mon général, lisez, parce qu'il y a des informations sensibles des gens. Vous êtes militaire, il a encore refusé de lire. Il dit, parce que s'il prend le bic et qu'il touche à ce livre, il dit que la quintessence risque de partir parce qu'il est militaire. En tant que militaire, il a une obligation de réserve. Et donc, il m'a dit de publier l'œuvre et c'est après la publication qui va lire. C'est comme ça que nous avons travaillé.
Alors, moi, j'ai eu le plaisir de parcourir votre œuvre, le général Abdoulaye Koulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Doufouette Boigné, comme vous l'avez dit vous-même. C'est une œuvre de près de 200 pages, mais je l'ai lue. L'œuvre parle de Abdoulaye Koulibaly en tant que pilote de Félix Houphouët Boigné. Pourquoi c'est si extraordinaire pour vous le fait que M. Abdoulaye Koulibaly, qui est un pilote d'avion, qui transporte Houphouët Boigné, puisse faire l'objet d'un livre. Je veux dire, on pourrait considérer cela comme un fait banal.
Bon, peut-être qu'aujourd'hui, vous et moi, quand on parle de Houphouët Boigné, quand on ne se met pas dans le contexte, on pense que Houphouët Boigné, c'était un être humain normal, un être humain comme tous les autres. Non, Houphouët Boigné, c'est un mythe, c'est même une légende. Je pense que quand vous vous placez dans le contexte, dans les années 70, les légendes autour de Houphouët Boigné, l'homme qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, l'homme qui était affublé de tous les superlatifs, on disait qu'il disparaissait. Cet homme-là acceptait qu'un jeune lieutenant de l'armée de Côte d'Ivoire soit pilote de son avion, mais c'est un événement extraordinaire. J'explique dans l'œuvre les péripéties, comment tout s'est passé pour qu'Houphouët Boigné, qui a si peur de l'avion, accepte qu'un Ivoirien, un jeune lieutenant, pilote son avion. C'est un parcours. C'est un parcours
exceptionnel.
Exceptionnel, je le dis.
L'œuvre se situe dans les années 70, mais pratiquement en 72, où il va effectivement, pour la première fois, accompagner Félix Houphouët Boigné au Libéria. J'ai compris que c'est là, pour la première fois, que le général Abdoulaye Koulibaly va donc conduire le président Félix Houphouët Boigné. Il raconte comment cela s'est passé, et c'était vraiment difficile. Alors, le général, il était tout jeune, pilote au GATL, et il a eu cette chance de conduire Félix Houphouët Boigné. Mais lorsqu'il vous raconte Félix Houphouët Boigné, qu'est-ce qu'il dit de l'homme? Qu'est-ce qu'il a marqué sur Houphouët Boigné?
Le général Koulibaly, si vous le connaissez, vous allez vous rendre compte qu'au quotidien, il essaie de mettre en œuvre les leçons apprises auprès de Houphouët Boigné. Je vous donne un exemple banal. Pendant la crise post-électorale, les militaires et la hiérarchie militaire, disons, pour Gbagbo, soupçonnaient le général Koulibaly de rouler pour les forces nouvelles et pour le camp Ouattara, mais sans aucune preuve. Et donc, ils ont préféré prendre les dispositions. Donc, ils ont envoyé une escouade de militaires qu'ils ont positionnés à gauche et à droite de sa maison. Il y a une voie qui passe devant. Donc, ils filtraient toutes les entrées. Et donc, ces gens étaient là pour rendre compte à leur hiérarchie des mouvements et faire suspect du général Koulibaly. Mais le général Koulibaly constate que les gens qu'on a envoyés pour le surveiller n'ont pas à manger ni à boire. Il constate que les gens ont faim. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans cette crise post-électorale où personne n'est sûr de sa provision, Le général Koubar a donné l'ordre à sa cuisinière de donner tous les jours à manger et à boire à ces militaires-là. Donc, ces gens qui étaient venus pour l'espionner, les pieds pour rendre compte à leur hiérarchie, se sont renversés, sont devenus finalement ces vigiles. Donc moi qui le fréquentais, entre le 10 et le 11 avril, je me rends chez le général, je prends tous les risques. J'arrive là, on m'arrête, on me fouille. Je demande aux militaires, mais pourquoi vous me fouillez? Ils disent, non, eux, ils sont là pour la sécurité du général Koulibaly. J'étais tellement surpris, quand j'ai rentré, il m'a expliqué que lui, il leur donne à manger, les gens ont oublié de leur donner à manger. Et donc les gens les ont postés là-bas depuis près d'une dizaine de jours, et on ne leur donne pas à manger. Ni à boire, parce qu'ils étaient occupés sur la ligne de front, mais ils ont oublié qu'à Bigan, ils avaient positionné des gens dans un endroit stratégique. Donc voilà cette leçon, par exemple, d'humilité, cette leçon de générosité, cette leçon de partage. Je pense que ce sont des leçons comme ça. C'est dans ce livre, c'est près de 20 ans pratiquement de confidence. On ne s'est pas assis comme ça, lui et moi, pour dire qu'on est en train de faire un livre. Non, ce sont nos causeries, nos confidences que j'ai rapportées textuellement dans l'œuvre. Ce ne sont pas des faits qui m'ont été racontés. Ce sont des choses que j'ai vécues personnellement à l'image de l'exemple que je viens de vous donner. Je chahutais à des amis quelque part. J'ai dit, si vous lisez ce livre et que vous ne retenez aucune leçon et que vous ne tirez aucun enseignement, vous venez, moi, je vous rembourse.
Alors, quand j'ai parcouru le M. Traoré Moussa, je me suis rendu compte, moi, dans mon découpage, qu'il y avait trois parties dans votre œuvre. La rencontre avec Félix Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort en 93. Et après, il y a l'arrivée du président Bédié au pouvoir. Et après, la chute du président Bédié en 99. Et puis, 2011 jusqu'à aujourd'hui. Dans la première partie, c'est vrai, c'est cette partie-là qui parle beaucoup d'Houphouët-Boigny. La première partie de l'œuvre qui part donc de 72, si vous voulez, jusqu'en 93, sa rencontre avec Félix Houphouët-Boigny, l'émission avec Félix Houphouët-Boigny, le travail au sein du groupe GATL dont il était le patron du GATL. On voit où Houphouët était impliqué dans ce qu'il faisait, comment il était consulté par Houphouët. Il expliquait comment Houphouët se comportait dans l'avion, comment certains ministres aussi se comportaient dans l'avion. Et ça, c'est vraiment des anecdotes. On prend énormément de plaisir à lire.
Vous le dites bien. Vous savez que le général Koulibaly, quand vous suivez son parcours que je décris dans cette œuvre, il commence en tant que pilote de l'avion du président, commandant du GATL, et PDG de Air Ivoire, n'oubliez pas cet aspect. Il est au sommet de la gloire. Mais quand le président Houphouët décède, mais c'est un chemin de croix qui commence. Donc il n'a même pas de bureau à Abidjan. Il est dégommé de toutes ses fonctions. Et donc tous ses compagnons, tous ses visiteurs ont disparu. Il était seul chez lui à la maison. Ensuite, quand il fait le coup d'État avec Guy Robert, mais il remonte. Il retrouve le sommet. Ministre d'État, ministre d'infrastructure, ministre des Transports. Mais tous ceux qui avaient déserté sa maison reviennent. Et je donne là une leçon de vie. Même son chauffeur, le simple chauffeur du général Koulibaly, a refusé de travailler avec lui lorsqu'il a été dégommé de toutes ses fonctions. Le général dit à son chauffeur, il dit, cher frère, même si je suis tombé combat, toi ton salaire là, je peux avoir, reste avec moi. Le chauffeur a refusé. Mais quand quelques années plus tard, le général est remonté au sommet, le même chauffeur est réapparu pour demander un emploi. Le général a accepté de le reprendre. Contre le gré des membres de sa famille qui disent « Non, on ne peut pas reprendre un tel monsieur. » Mais le général a donné une leçon de vie à ce monsieur en le reprenant. Et donc, vous voyez son cheminement. Pendant les 10 années du régime de la refondation, mais le général était dans le creux de la vague. On l'empêchait de voyager, il n'avait pas de carte d'identité, on a arraché son chéquier, son passeport. Donc il a vécu des moments très difficiles. Et j'étais tous les jours avec lui. Je suivais, ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est des choses que j'ai vécues au quotidien avec lui. Et donc, quand le président Ouattara arrive, le général remonte encore. Tous ceux qui ont déserté sa maison reviennent en force. Et donc, j'ai dit, mais vraiment, regardez son parcours. Donc, malgré tout ça, il est resté lui-même, il est resté humble, il est resté la même personne, malgré tout ce qu'il a vécu. C'est cette leçon-là que je voulais que ceux qui lisent l'œuvre retiennent.
D'accord. Mais il y a aussi M. Traoré Moussa concernant le général sur l'aspect politique. Le général Abdoulaye Koulibaly s'est quand même plus ou moins prononcé sur la situation. Notamment dans la période 1994, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il a expliqué les difficultés qu'il a eues avec le successeur du président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié.
Oui, effectivement, il faut dire que dans le chemin de croix, dans l'œuvre, le décès de Houphouët-Boigny est une période qui a été vécue difficilement par le général Koulibaly. Il faut dire que dans la politique de désoufouettisation, tous les proches collaborateurs de Houphouët-Boigny étaient soumis à un régime très difficile. Bon, c'était dans la désoufouettisation, il faut comprendre. Et donc le général Koulibaly, à cette période-là, il a été dégommé de toutes ses fonctions. Et malgré cela, je pense qu'il n'en veut à personne. C'est un peu ça qui m'a marqué.
En 99, vous l'avez dit tantôt, il y a eu le coup d'État et il faisait partie du CNSP. C'était le visage visible de ce coup d'État, le général Parlinfo, le président Nguéi et lui-même. C'était les trois généraux qui étaient au devant de cette affaire. Au début, c'était bien et après, c'était difficile. Et vous racontiez que dans l'œuvre, qu'il a été obligé lui-même et le général Parlinfo de s'exiler à l'ambassade du Nigeria pour protéger leur vie.
Moi, je vous explique ce que j'ai rapporté dans le, parce que c'est pas que je me suis assis avec le général Koubali pour qu'il m'explique, non, c'est ce que j'ai vécu. À un moment donné de la transition, le général Koubali a rendu sa démission, mais ça combien d'Ivoiriens le savent, le général Koubali a décidé de démissionner et le premier ministre Elou Diarra et Parlinfo se sont rendus au domicile du général Koubali pour dire que s'il démissionne et également allait démissionner, oui. Ça plein, beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas, mais le général Koubali n'a pas préparé le coup d'État. J'explique comment de façon accidentelle le général Koubali s'est retrouvé dans ce coup d'État. Il était à une réunion du fonds de prévoyance militaire, où il était PCA. Il était à une réunion, et puis tout d'un coup, ils entendent des coups de feu dehors. Et donc, il est en tenue militaire. Donc, il demande au colonel Barou de lui donner une chemise. Et le colonel Barou lui a donné une chemise, pour ne pas qu'en sortant dans la rue, il se retrouve en treillis avec des gens qu'il ne connaissait pas, dont il ne connaissait pas également les motivations. Donc, il a pris une chemise de civil pour se rendre à son domicile, pour ne pas se confondre aux jeunes gens de 1999. Et donc, tard dans la soirée, c'est le général Parlinfo qui envoie des gens le chercher. Il faut venir. Il vient, il dit, bon, écoute, c'est un coup d'État, hein, tu es dedans. Donc, le Parlinfo lui-même également, c'est de la même manière, les jeunes gens sont venus chez lui à la maison. J'ai rencontré, il faut dire que j'ai cité les personnes aux ressources, j'ai parlé avec le général Parlinfo également longuement. Les jeunes gens sont rendus d'abord au domicile de Parlinfo pour lui demander de prendre le pouvoir. Parlinfo a estimé qu'il avait déjà donné sa parole d'honneur, sa parole de militaire au comité olympique qu'à la fin de l'année, il avait participé à l'Assemblée générale à Sydney. Et donc, il a refusé. C'est lui qui a proposé donc qu'on aille chercher Guy Robert et aller chercher également le général Koulibaly. Donc voilà comment le général Koulibaly, de façon accidentelle, s'est retrouvé dans ce coup d'État. Mais vers la fin, lui et Parlinfo, leurs problèmes sont liés au fait qu'ils ont refusé de s'associer au projet de confiscation du pouvoir. Puisque quand les militaires sont venus, ils ont dit qu'ils vont balayer la maison et rendre la maison aux civils. Mais lorsque, en cours de chemin, les ambitions de Guy ont pris le pas, général Koulibaly et Parlinfo, pour préserver leur vie, se sont réfugiés à l'ambassade du Nigeria. Voici les faits réels.
Cette œuvre aussi, j'allais dire, Traoré Moussa, nous permet aussi d'avoir un autre visage du général Koulibaly, parce que dans l'imagerie populaire, c'est un personnage dur, difficile, mais tel que vous racontez l'homme, on pourrait lui donner la communion sans confession aussi. C'est sûr. Un ange. Quand je lis l'œuvre, le général, c'est vraiment l'ange. Il est gentil, il pardonne, il n'en veut à personne.
Le paragraphe le plus difficile de cette œuvre à écrire était pour moi les défauts du général.
Oui.
Parce que je suis avec quelqu'un, je le vois tellement parfait. Mm-hmm. On ne peut pas faire une œuvre sur quelqu'un sans montrer quand même ses aspects négatifs.
Oui.
Donc je cherche ses aspects négatifs. Et donc je suis allé chercher son collaborateur de 20 ans, qui est le colonel Aboubakar Kouyaté, qui était vraiment partout avec le général. Il me dit, petit frère, le général Koubali n'a pas de défauts. Il me dit, comment tu peux dire le général Koubali n'a pas de défauts? Mm-hmm. Non, je t'ai dit qu'il n'a pas de défauts. Je dis, non, il a un défaut, grand frère. Donne-moi. Il dit, il n'a pas de défauts. Donc, c'est pour dire que le paragraphe, les défauts, c'était difficile. Mais Colonel Barou, c'est lui qui m'a donné l'exemple de l'achat du terrain sur la route d'Akouido. Les militants ont acheté 20 hectares de terrain parce qu'il y avait tellement de convoitises. Les militants ont beaucoup
sur
d'argent.
Le fonds
de prévoyance militaire. Il y avait beaucoup d'argent là-bas. Et donc, le général et ses administrateurs décident d'acheter un terrain de 20 hectares pour les militaires. Le même terrain, quand vous m'en remontez en allant vers le carrefour fait que c'est regardé à droite, le grand terrain qui est là. C'est le général qui a acheté ça pour l'armée de Côte d'Ivoire. Quand ils achètent le terrain de 20 hectares, les propriétaires terriens et les administrateurs disent, mais écoute, on ne va pas tirer 20 hectares comme ça sans que nous-mêmes, on ne sortira un peu. Mm-hmm. Donc, on va prendre chacun quelques 1000 mètres carrés. C'est 20 hectares quand même. Je vous parle de 20 hectares à Abidjan. Le général Koulibaly, donc, ils vont faire la proposition au général Koulibaly. Il dit, un seul mètre carré de ce terrain n'ira nulle part. C'est un terrain qui appartient exclusivement aux militaires. Et vraiment, Colonel Barou était tellement étonné. Il dit, mais il y a un monsieur comme ça. Il dit, lui, en 37 ans dans l'armée, il n'a jamais vu une personne aussi soucieuse de l'intérêt général comme le général Koulibaly. Ça, c'est ce que le colonel Barouk le dit.
Monsieur Traoré Moussa, je vous reçois ici dans le cadre donc, de culture, où nous parlons donc de votre œuvre intitulée « Général Abdoulaye Koulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Doufouet Boigny ». Donc après cette grande partie, il reste maintenant la troisième partie de la vie du général que vous racontez à travers votre œuvre biographique. Le général 2011, avec l'arrivée de son ami et frère Alassane Ouattara au pouvoir. Il va avoir encore un rebondissement dans sa vie et ce rebondissement va être heureux pour lui puisque vous-même vous le dites dans l'œuvre, il va se voir confier beaucoup de postes. N'oublions pas que le général, il a fêté ses 75 ans en 2018. Est-ce qu'aujourd'hui le général, pourquoi il ne va pas l'arrêter? Pourquoi
le général même demande à aller à l'arrêter, c'est le président Ouattara qui dit non, il faut que tu restes là encore. Parce qu'effectivement, quand on regarde son cheminement, quand on voit les procédures qu'il a mises en place, on sent, on voit que l'Air Côte d'Ivoire très rapidement a pris son envol. Et le général ne veut pas que la compagnie connaisse le sort de toutes les compagnies africaines qui ont mis la clé sous le paillasson. Et c'est pour ça qu'il veut que le général Koulibaly reste là-bas le plus longtemps possible. Moi, ça, le général Koulibaly, il est PCA de Aéria, PCA de Air Côte d'Ivoire. Mais je vous donne un exemple, par exemple. Il a refusé, par exemple, que Air Côte d'Ivoire lui donne sa voiture de fonction. Il a refusé. Je veux dire qu'il n'est pas attaché, au bien matériel. Oui. Parce qu'il en a tellement vu, d'après lui-même. Il dit qu'il a vu les gens riches. Il a vu la quantité d'argent.
Oui, il raconte cette histoire du richissime sénégalais, Mbaye, qui est mort à une soixantaine d'années. Ouais. Mais vraiment.
Djili Mbaye.
Ouais, qui Djili Mbaye.
Djili Mbaye, c'est quelqu'un qui voyageait le général Koulibaly. Ouais. Quand il partait à la Mecque avec le général Koulibaly, quand Djili Mbaye débarquait d'un hôtel comme l'hôtel Ivoire, pendant tout son séjour, Djili Mbaye déposait de l'argent à la réception pour payer le séjour de tous ceux qui sont dans l'hôtel en même temps que lui. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça, c'est des choses. Quand on dit quelqu'un est riche, Djili Mbaye dit c'est ça qu'on appelle des riches. Il dit les nouveaux riches ou les anciens pauvres, rien ne le met parce qu'il a déjà vu des riches. Il a côtoyé des riches comme Djili Mbaye. Je ne vais même pas parler du faux moyen qu'il a côtoyé. Donc, quand vous venez vous exhiber avec de l'argent, vraiment, le général Koulibaly, il a pitié de vous. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui a placé le bien matériel à un niveau vraiment très bas. C'est-à-dire qu'il ne considère pas la richesse comme un critère de sélection de ses amis. C'est-à-dire que vraiment, l'argent ne lui fait plus chaud ni froid. D'abord, lui-même, il dit là où il est arrivé, il ne cherche plus l'argent. J'explique qu'en zone 4, ce qui s'est passé. Vous voyez, les gens achètent toutes les maisons basses en zone 4
ouais, les
pour construire des immeubles.
Ouais, pour
mais
faire
a, en ma présence, il y a un mania de l'immobilier qui est venu proposer au général Koulibaly d'acheter sa petite maison qui est en zone 4. Le général Koulibaly a dit, mais qui vous a dit que ça va vendre? Il dit, non, lui va acheter pour construire un immeuble. Le général, il dit, j'ai de l'argent. Le général lui a demandé, mais moi, je ne cherche pas l'argent. Qui vous a demandé même de venir me voir? Et il a renvoyé le monsieur, j'étais là, j'ai vu. Donc, pour dire qu'il dit, ne cherche pas l'argent aujourd'hui. Et le DG de Air Côte d'Ivoire me l'a dit. Il le général a mis des procédures à Air Côte d'Ivoire telles que c'est quasiment impossible de plonger la main dans la collectivité. Les billets d'avion gratuits, les vacances que les gens s'offraient. Mais tout ça, c'est terminé à Air Côte d'Ivoire. Allez-y, à Air Côte d'Ivoire, vous allez voir, ce n'est pas des choses cachées. Donc voilà un peu, je veux dire que son parcours, il est exceptionnel. Moi, j'invite les Ivoiriens à lire sur cette œuvre pour que vous puissiez vous inspirer de son exemple.
Et découvrir l'homme.
L'exemple d'humilité, l'exemple d'intégrité, en fait. Voyez-vous? La leçon de cette œuvre, c'est qu'on peut avoir côtoyé les sommités du monde. On peut avoir vu toutes les grosses quantités d'argent et rester soi-même. C'est ça la leçon que je veux que les Ivoiriens retiennent.
Merci beaucoup à M. Traoré Moussa. Je vous recevais dans le cadre donc de la présentation de votre œuvre Général Abdoulaye Koulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Doufouette Boigné. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup M. Traoré Moussa et puis très très bon retour chez vous.
Merci.
C'était Culture. Radio de la Paix.